L'encyclopédie, article comique, rédigé par Marmontel. Comique, adjectif plaisant, qui excite à rire, qui appartient à la comédie. Aventure comique, propos comique, figure comique, style comique. Comique, substantif, un comique, c'est-à-dire un acteur comique, un poète comique. Le comique, c'est-à-dire le genre de la comédie. C'est le comique de la troupe. Molière est le modèle des comiques. Le comique corrige les mœurs. Comique, pris pour le genre de la comédie, est un terme relatif. Ce qui est comique pour tel peuple, pour telle société, pour tel homme, peut ne pas l'être pour tel autre. L'effet du comique résulte de la comparaison qu'on fait, même sans s'en apercevoir, de ses mœurs avec les mœurs qu'on voit tourner en ridicule, et suppose entre le spectateur et le personnage représenté une différence avantageuse pour le premier. Ce n'est pas que le même homme ne puisse rire de sa propre image, lors même qu'il s'y reconnaît. Cela vient d'une duplicité de caractère qui s'observe encore plus sensiblement dans le combat des passions, où l'homme est sans cesse en opposition avec lui-même. On se juge, on se condamne, on se plaisante, comme un tiers et l'amour-propre y trouve son compte. Le comique n'étant qu'une relation, il doit perdre à être transplanté, mais il perd plus ou moins en raison de sa bonté essentielle. S'il est peint avec force et vérité, il aura toujours, comme les portraits de Van Dyck et de Latour, le mérite de la peinture, lors même qu'on ne sera plus en état de juger de la ressemblance. Et les connaisseurs y apercevront cette âme et cette vie qu'on ne rend jamais qu'en imitant la nature. D'ailleurs, si le comique porte sur des caractères généraux et sur quelques vices radicales de l'humanité, il ne sera que trop ressemblant dans tous les pays et dans tous les siècles. L'avocat Patelin semble peint de nos jours. L'avocat de Plaute a ses originaux à Paris. Le misanthrope de Molière eut trouvé les siens à Rome. Tels sont malheureusement chez tous les hommes le contraste et le mélange de l'amour-propre et de la raison, que la théorie des bonnes mœurs et la pratique des mauvaises sont presque toujours et partout les mêmes. L'avarice, cette avidité insatiable qui fait qu'on se prive de tout pour ne manquer de rien, l'envie, ce mélange d'estime et de haine pour les avantages qu'on n'a pas, l'hypocrisie, ce masque du vice déguisé en vertu, la flatterie, ce commerce infâme entre la bassesse et la vanité, tous ces vices et une infinité d'autres existeront partout où il y aura des hommes, et partout ils seront regardés comme des vices. Chaque homme méprisera dans son semblable ce dont il se croira exempt et prendra un plaisir malin à le voir humilié, ce qui assure à jamais le succès du comique qui attaque les mœurs générales. Il n'en est pas ainsi du comique local et momentané. Il est borné pour les lieux et pour les temps, au cercle du ridicule qu'il attaque. Mais il n'en est souvent que plus louable, attendu que c'est lui qui empêche le ridicule de se perpétuer et de se répandre en détruisant ses propres modèles. Et que s'il ne ressemble plus à personne, c'est que personne ne veut plus lui ressembler. Ménage, qui a dit tant de mots et qui en a dit si peu de bons, avait pourtant raison de s'écrier à la première représentation des précieuses ridicules. Courage, Molière, voilà le bon comique. Observons à propos de cette pièce qu'il y a quelquefois un grand art à charger les portraits. La méprise des deux provinciales, le empressement pour deux valets travestis, les coups de bâton qui font le dénouement, exagèrent sans doute le mépris attaché aux airs et aux tons précieux. Mais Molière, pour arrêter la contagion, a usé du plus violent remède. C'est ainsi que dans un dénouement qui a essuyé tant de critiques et qui mérite les plus grands éloges, il a osé envoyer l'hypocrisie à la grève. Son exemple doit apprendre à ses imitateurs à ne pas ménager le vice et à traiter un méchant homme sur le théâtre comme il doit l'être dans la société. Par exemple, il n'y a qu'une façon de renvoyer de dessus la scène un scélérat qui fait gloire de séduire une femme pour la déshonorer. Ceux qui lui ressemblent trouveront mauvais le dénouement, tant mieux pour l'auteur et pour l'ouvrage. Le genre comique français, le seul dont nous traitons ici comme étant le plus parfait de tous, se divise en comique noble, comique bourgeois et bas comique. Comme on n'a fait qu'indiquer cette division dans l'article comédie, on va la développer dans celui-ci. C'est d'une connaissance profonde de leurs objets que les arts tirent leurs règles et les auteurs leur fécondité. Le comique noble peint les mœurs des grands, et celles-ci diffèrent des mœurs du peuple et de la bourgeoisie, moins par le fond que par la forme. Les vices des grands sont moins grossiers, leurs ridicules moins choquants. Ils sont même pour la plupart si bien colorés par la politesse qu'ils entrent dans le caractère de l'homme aimable. Ce sont des poisons assaisonnés que le spéculateur décompose. Mais peu de personnes sont à portée de les étudier, moins encore en état de les saisir. On s'amuse à recopier le petit maître sur lequel tous les traits ridicules sont épuisés et dont la peinture n'est plus qu'une école pour les jeunes gens qui ont quelques dispositions à le devenir. Cependant, on laisse en paix l'intrigante, le bas orgueilleux, le preneur de lui-même et une infinité d'autres dont le monde est rempli. Il est vrai qu'il ne faut pas moins de courage que de talent pour toucher à ces caractères, et les auteurs du faux sincère et du glorieux ont eu besoin de l'un et de l'autre. Mais aussi, ce n'est pas sans effort qu'on peut marcher sur les pas de l'intrépide auteur du Tartuffe. Boileau racontait que Molière, après lui avoir lu le Misanthrope, lui avait dit « Vous verrez bien d'autres choses. » Qu'aurait-il donc fait si la mort ne l'avait surpris, cet homme qui voyait quelque chose au-delà du misanthrope? Ce problème qui confondait Boileau devrait être pour les auteurs comiques un objet continuel d'émulation et de recherche, et ne fût-ce que pour eux que la pierre philosophale, il ferait du moins, en la cherchant inutile, mille autres découvertes utiles. Indépendamment de l'objet réfléchi, de l'étude des mœurs du grand monde sans lequel on ne saurait faire un pas dans la carrière du haut comique, ce genre présente un obstacle qui lui est propre et dont un auteur est d'abord effrayé. La plupart des ridicules des grands sont si bien composés qu'ils sont à peine visibles. Leurs vices, surtout, ont je ne sais quoi d'imposant qui se refuse à la plaisanterie. Mais les situations les mettent en jeu. Quoi de plus sérieux en soi que le misanthrope? Molière le rend amoureux d'une coquette. Il est comique. Le Tartuffe est un chef-d'œuvre plus surprenant encore dans l'art des contrastes. Dans cette intrigue si comique, aucun des principaux personnages ne le serait pris séparément. Ils le deviennent tous par leur opposition. En général, les caractères ne se développent que par leur mélange. Les prétentions déplacées, les faux airs, font l'objet principal du comique bourgeois. Les progrès de la politesse et du luxe l'ont rapproché du comique noble, mais ne les ont point confondus. La vanité, qui a pris dans la bourgeoisie un ton plus haut qu'autrefois, traite de grossier tout ce qui n'a pas l'air du beau monde. C'est un ridicule de plus qui ne doit pas empêcher un auteur de peindre les bourgeois avec les mœurs bourgeoises. Qu'il laisse mettre au rang des farces Georges Dandin, le malade imaginaire, les fourberies de Scapin, le bourgeois gentilhomme, et qu'il tâche de les imiter. La farce est l'insipide exagération ou l'imitation grossière d'une nature indigne d'être présentée aux yeux des honnêtes gens. Le choix des objets et la vérité de la peinture caractérisent la bonne comédie. Le malade imaginaire auquel les médecins doivent plus qu'ils ne pensent est un tableau aussi frappant et aussi moral qu'il en est au théâtre. Georges Dandin, où sont peintes avec tant de sagesse les mœurs les plus licencieuses, est un chef-d'œuvre de naturel et d'intrigue. Et ce n'est pas la faute de Molière si le sot orgueil, plus fort que ses leçons, perpétue encore l'alliance des Dandins avec les Solenville. Si dans ces modèles on trouve quelques traits qui ne peuvent amuser que le peuple, en revanche, combien de saignes dignes des connaisseurs les plus délicats. Boileau a eu tort s'il n'a pas reconnu l'auteur du Misanthrope dans l'éloquence de Scapin avec le père de son maître, dans l'avarice de ce vieillard, dans la scène des deux pères, dans l'amour des deux fils, tableau digne de Terence, dans la confession de Scapin qui se croit convaincu, dans son insolence dès qu'il sent que son maître a besoin de lui. Et Boileau a eu raison s'il n'a regardé comme indigne de Molière que le sac où le vieillard est enveloppé. Encore eût-il mieux fait d'en faire la critique à son ami vivant que d'attendre qu'il fût mort pour lui en faire le reproche. Pour Sauniac est la seule pièce de Molière qu'on puisse mettre au rang des farces. Et dans cette farce même, on trouve des caractères tels que celui de Scrignadi et des situations telles que celle de pour Sauniac entre les deux médecins qui décèlent le grand maître. Et le comique bas, ainsi nommé parce qu'il imite les mœurs du bas peuple, peut avoir, comme les tableaux flamands, le mérite du coloris, de la vérité et de la gaieté. Il a aussi sa finesse et ses grâces. Il ne faut pas le confondre avec le comique grossier. Celui-ci consiste dans la manière, ce n'est point un genre à part, c'est un défaut de tous les genres. Les amours d'une bourgeoise et l'ivresse d'un marquis peuvent être du comique grossier, comme tout ce qui blesse le goût et les mœurs. Le comique bas, au contraire, est susceptible de délicatesse et d'honnêteté. Il donne même une nouvelle force au comique bourgeois et au comique noble, lorsqu'il contraste avec eux. Molière en fournit 1000 exemples. Voyez dans Le dépit amoureux, la brouillerie et la réconciliation entre Mathurine et Gros René, où sont peints dans la simplicité villageoise les mêmes mouvements de dépit et les mêmes retours de tendresse qui viennent de se passer dans la scène des deux amants. Molière, à la vérité, mêle quelquefois le comique grossier avec le bas comique. Dans la scène que nous avons citée, Pelotre de Bissan d'épingle de Paris est du comique bas. Je voudrais bien aussi rendre ton potage et du comique grossier. La paille rompue est un trait de génie. Ces sortes de scènes sont comme des miroirs où la nature, ailleurs peinte avec le coloris de l'art, se répète dans toute sa simplicité. Et le secret de ces miroirs serait-il perdu depuis Molière? Il a tiré des contrastes encore plus forts du mélange des comiques. C'est ainsi que dans Le festin de Pierre, il nous peint la crédulité de deux petites villageoises et leur facilité à se laisser séduire par un scélérat dont la magnificence les éblouit. C'est ainsi que dans Le bourgeois gentilhomme, la grossièreté de Nicole jette un nouveau ridicule sur les prétentions impertinentes et l'éducation forcée de M. Jourdain. C'est ainsi que, dans l'école des femmes, l'imbécilité d'Alain et de Georgette, si bien nuancée avec l'ingénuité d'Agnès, concourt à faire réussir les entreprises de l'amant et à faire échouer les précautions du jaloux. Qu'on nous pardonne de tirer tous nos exemples de Molière. Si Ménandre et Terence revenaient au monde, ils étudieraient ce grand maître et n'étudieraient que lui. Cet article est de M. de Marmontel.